Il faut toujours que nous réincarnions notre source dans le contexte présent. Donc nous avons réfléchi sur les situations internationales et donc les modifications de ce que nous appelons les guerres, les conflits, et par définition aussi les modifications importantes qui risquent de toucher au fondement de nos droits humanitaires, droits humanitaires internationaux ou simplement droits de l'homme, qui nous concernent bien sûr au premier degré. Et donc nous touchons, si vous voulez, cette mystérieuse rencontre entre la source, c'est-à-dire la charge pastorale qui nous a été confiée lorsqu'on nous a, le Saint-Père nous a nommé ordinaire militaire, et puis la rencontre avec le monde d'aujourd'hui. Nous ne sommes plus en présence de conflits tels que nous les avons connus, hélas d'ailleurs, d'une façon dramatique au cours du XXe siècle, mais apparaissent de nouveaux types de conflits où guerre entre États, c'est-à-dire à caractéristique internationale, ne se distingue plus guère de conflits à l'intérieur d'un pays, d'une nation, où interviennent aussi d'autres nations. Donc on voit qu'on a de plus en plus de difficultés à poser certaines distinctions jusque-là fondamentales dans notre droit humanitaire international.
Et quels sont les défis auxquels vous êtes donc confrontés aujourd'hui ?
Alors il y a deux sortes de défis. Il y a des défis généraux, ceux dont on vient de parler en tant que responsable de l'Église catholique, en tant qu'évêque, si vous voulez. Nous essayons aussi d'influer sur les grandes décisions auprès des autorités politiques nationales et internationales. Donc à ce titre-là, les défis que nous venons soulever, qui sont d'abord des défis de réflexion, pour essayer de se dire qu'est-ce que c'est que la guerre d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le droit humanitaire, qu'est-ce qu'un militaire, qu'est-ce qu'un civil. C'est notre premier défi. Et il est considérable. Pour l'instant, nous en sommes, comme beaucoup de juristes et d'humanistes, au niveau des questions et pas encore au niveau des réponses. Et puis ensuite, il y a le défi quotidien de chaque pasteur. Je dois avouer que c'est celui qui nous prend le plus de temps. Bon, comment assister spirituellement, chrétiennement même, pas seulement spirituellement, parce qu'il y a aussi d'autres aumôneries, des aumôneries protestantes, des aumôneries israéliennes, des aumôneries catholiques ou bouddhistes dans certains pays. Comment assister chrétiennement nos militaires et leurs familles qui sont aujourd'hui dans des situations difficiles? Aujourd'hui particulièrement, pourquoi? Ils ont toujours été difficiles, les circonstances dans lesquelles le militaire doit mener ses missions. Par définition, cela s'appelle la guerre, et donc ce n'est nécessairement quelque chose qui est un chaos, qui prend la forme d'un chaos, d'un désordre profond, auquel justement il essaye de remédier, malheureusement en utilisant, mais c'est une obligation parfois, la force du feu. Mais aujourd'hui, c'est particulièrement difficile parce que certaines institutions qui jusque-là formaient une sorte de stabilité à la fois sociale et psychologique chez le militaire, comme la famille, sont lourdement atteintes, impactées. Et donc nous nous trouvons aujourd'hui devant des personnes, militaires ou anciens militaires, qui ont subi des traumatismes profonds. Je prends l'exemple de la France, par exemple. Nous n'avons plus la guerre sur notre territoire. C'est une chose là qui a été oubliée, même des générations depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais nous avons des opérations difficiles, comme celles que nous menons en Afghanistan, et qui laissent non seulement des blessures physiques, mais des traumatismes psychiques importants. Alors comment ces personnes-là, aujourd'hui plusieurs milliers de personnes, vont-elles pouvoir se situer dans leur mission future ou bien dans leur mission de père de famille? Voilà, ce sont des questions lourdes.
Et comment justement l'aumônier militaire leur vient en aide, les soutient?
C'est exactement notre question pastorale, et l'évêque est là pour résoudre ces questions pastorales précisément. Il les soutient comme il peut, parce qu'il n'est qu'un homme, il est lui aussi pris dans les mêmes tourmentes. Il est clair, pour moi, me semble-t-il, que c'est une présence d'abord, une présence qui doit détonner par rapport aux autres présences. Il se considère, et on doit le tenir comme égal de tous les soldats auxquels il parle. Nous avons une formule hein, chez nous, donc en France, en disant l'aumônier n'a pas de grade précisément parce qu'il prend le grade de celui à qui il parle, de telle sorte que ce soit toujours dans une relation respectueuse, mais égalitaire et non pas hiérarchique, soit parce qu'il commanderait, soit parce qu'il recevrait des ordres. Donc, tout en étant militaire, l'aumônier militaire français doit pouvoir être libre de la relation hiérarchique et pouvoir aider tout le monde, soit par des conseils, soit par une présence déjà, soit par une aide même concrète, physique, support de santé ou bien support financier parfois pour certains. Voilà. Et puis bien sûr, quand la demande est là, il doit conduire à beaucoup plus, c'est-à-dire à activer ou réactiver une vie spirituelle, et en particulier ce que nous avons la grâce de faire chaque année, de conduire des hommes et des femmes militaires jusqu'à la grâce du baptême et des sacrements.
Et sur le terrain, qu'est-ce qui distingue donc un aumônier militaire des autres militaires ?
Alors en tout cas, en France, hein, même si les conventions de Genève l'autorisent à porter une arme, il est non combattant. Et donc, je souhaite qu'il ne porte pas d'armes. Et donc, déjà, cet aspect-là est très significatif. Donc, il n'a pas de mission opérationnelle, sinon parfois de marcher, ce qui est une longue tradition historique, de marcher avec le corps médical, à côté des médecins, à côté des brancardiers, à côté de ceux qui peuvent porter une assistance directe à la personne. Donc, il n'a pas de mission opérationnelle, il n'est pas là pour exécuter un ordre, il est là pour être au plus près de nos militaires quand ils le souhaitent, ou quand il se trouve en difficulté, celui qui appelle en définitive au mystère d'une vie qui est plus forte que la mort, ou très concrètement, au mystère d'un amour qui peut dépasser la violence et la haine qui naissent ou qu'on fait naître au cours des conflits.
Quel est votre saint patron ?
Le saint patron des aumôniers, c'est saint Jean de Capistran. Mais nous avons aussi de multiples autres saints patrons, ce que nous appelons des patrons d'armes, pour chaque armée, pour chaque arme.
Et qu'est-ce que justement le saint patron saint Jean de Capistran peut-il nous enseigner aujourd'hui ou vous apporte-t-il dans votre mission ?
Je ne sais pas ce que tous mes aumôniers lui demandent, je n'en sais rien. Moi, tout ce que je demande à mes aumôniers, et je souhaite que vraiment la grâce de Dieu les travaille en ce sens, à partir de ce mot de saint Paul, mais repris par saint Pierre et toute la tradition évangélique, vous êtes appelés à la liberté. Donc je souhaite que dans des conflits où eux-mêmes l'aumônier peut prendre parti, parce que quand on voit un frère d'armes qui a une jambe arrachée ou des comportements en face des adversaires qui sont en dehors de tout droit international, eh bien il peut y avoir des mouvements au cœur même de l'aumônier, des mouvements de haine, de non-pardon, de violence. Et je souhaite que la grâce de Dieu garde tous mes aumôniers toujours dans la liberté du pardon et de la miséricorde.